Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Edeni. Nous sommes ravis de pouvoir aborder aujourd'hui la thématique du média-activisme parce que c'est un sujet, mine de rien, pour un collectif comme Edeni qui est très présent sur les réseaux sociaux, eh bien, qui revient souvent. C'est un sujet qu'on ne peut pas éviter, un peu comme quand on avait parlé de l'impact du numérique et donc de notre empreinte numérique forcément, en général et sur les réseaux sociaux en particulier. Mais il y a un autre impact qui compte, outre que celui du bilan carbone et écologique, c'est l'impact social, éthique, militant qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Alors ce soir, on va parler de média-activisme, paradoxe ou outil réel, métier ou hobby, parce qu'on oppose souvent l'activisme de la rue à l'activisme des médias. Intellectuellement, l'activisme des médias est souvent déprécié, alors que socialement, les followers et les likes apportent beaucoup plus de reconnaissance que les actions de terrain anonymisées. Et puis surtout, on a aussi une dichotomie entre la population qu'on va toucher. Comment réconcilier du coup ces deux formes d'activisme? Comment penser leur apport mutuel et leur frein en toute transparence avec honnêteté radicale, comme nous le disait Camille en intro? On dit parfois qu'un bon communicant n'a plus de temps pour être un bon acteur ou une bonne actrice. Alors qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que pensent nos invités qui se définissent d'ailleurs comme média-activistes? Comment nous sommes toutes et tous quelque part des influenceurs et des influenceuses à nos niveaux et quoi en faire dans cette lutte pour la transition écologique, puisque je vous le rappelle, c'est l'objectif et la mission du collectif Edeni qui organise ces rencontres mensuelles, puisque nous sommes un organisme de formation professionnelle à la transition écologique et sociale. On organise des retraites en éco-sérénité aussi, des formations de reconversion, des formations eh bien de tout simplement de culture générale, de culture pas générale du coup, mais vraiment de transition écologique. On essaie de le faire avec le plus de transparence, de radicalité, d'enthousiasme et d'honnêteté possible. Et c'est organisé autour de cette charte que nous allons pouvoir démarrer cette conversation du soir avec nos deux invités, Camille, alias Girl Go Green, et Charlotte, alias Mangeuse d'herbe, que nous recevons ce soir. Bonsoir.
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 Alors, je vais vous laisser vous présenter chacune avec vos mots. Je trouve que c'est encore la meilleure manière de rendre hommage à ce que vous faites. Camille, d'abord, est-ce que tu peux te présenter?
Tout à fait. Du coup, je m'appelle Camille. Je tiens en effet à un média sur Instagram qui s'appelle Girl Go Green, qui a vocation à sensibiliser aux enjeux environnementaux et sociaux sous le prisme, disons, avec un tone of voice, avec une ligne édito un peu décalée, non culpabilisante, et en essayant de plus en plus d'amener un peu de rêve dans la projection que l'on a du monde de demain. Et à côté de ça, j'œuvre de toutes les manières que je peux à essayer de sensibiliser le grand public. Soit plus à travers l'esprit en donnant des conférences, en accompagnant des structures dans leur transition, ou alors en réalisant des fictions au service des transitions écologiques et sociales. Voilà pour moi.
Merci Camille. Charlotte?
Alors bonsoir, alors moi c'est Charlotte de Mangeuse d'herbe, je tiens un compte food dédié à la cuisine afro-végane. J'y traite aussi des questions justement d'afro-véganisme qui posent notamment les problèmes d'intersectionnalité et d'antispécisme à travers les luttes sociales et antiracistes notamment. À côté de ça, j'écris beaucoup et je propose des conférences justement qui informent les personnes sur cette histoire, sur l'histoire de la cuisine, mais aussi cette perception qu'on a des animaux, de l'exploitation animale qui est selon moi une construction sociale. Voilà.
Merci Charlotte. Et justement, sur ton compte, on voit, alors tu le fais avec aussi, c'est quelque chose que vous avez en commun avec Camille, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de poésie. Tu mets en scène tes recettes, mais on voit du coup directement l'implication dans la vie réelle que ça a. Tu fais toujours le lien avec l'antispécisme et aussi avec l'afroféminisme. En quoi tu dirais que l'exercice de ton métier est politique? Comment tu arrives à le rendre politique?
Bah, déjà, je pense que quand on est une personne non blanche, ça va très vite, hein, rien que parce que l'on incarne, quand on se positionne dans ce type de lutte qui sont très eurocentrées, voilà, très blanc de base, bah, automatiquement, tout de suite, le fait d'incarner, même juste pour moi, comme on dit souvent, comment est-ce qu'on peut se définir afro-vegan? Bah, déjà, tu es une personne noire, tu es vegan, voilà, fin de la définition, bien sûr, ça peut aller beaucoup plus loin, mais voilà, je pense que déjà, rien que. Le fait d'oser prendre la place qu'on a le droit d'incarner, et surtout sur ces questions écologiques et de justice climatique qu'on entend très souvent, qui sont surtout, qui ont surtout été à la base créées par des personnes racisées et par des personnes qui sont les concerner vraiment en urgence, quoi, hein. Pour moi, déjà, ça, c'est politique. Ensuite, voir une personne racisée engagée en joie, c'est politique aussi. Par rapport à toute la violence du système, je pense que ce moment, voilà, de sincère joie et non de résilience, d'amusement, c'est un souffle, je pense, à travers tout le contenu et tout ce que l'on peut voir. Surtout quand on essaie de le faire en conscience, c'est quelque chose qui pour moi, voilà, m'apparaît, on va dire, de base très politique, quoi.
Donc, tu as la politisation, ne serait-ce que par la visibilisation, effectivement, de personnes racisées afro-vegan, de par ta présence, de par ton modèle aussi, parce qu'on parle souvent du manque de modèle dans la société de personnes racisées parce qu'on ne leur laisse pas la place. Et est-ce que parfois, est-ce qu'il t'arrive de t'auto-censurer ou dans un sens, dans un autre, c'est-à-dire que tu vas faire un post et tu vas dire « Ah, il est un peu trop léger, il faudrait que je rajoute une couche de politisation ou de, voilà, d'intellectualisation » ou est-ce qu'à l'inverse, parfois, tu vas faire des posts, alors peut-être un peu moins récemment de ce que j'ai vu sur ton compte, mais il t'est arrivé de faire vraiment des posts explicatifs, historiques, très militants, et où tu t'aurais pu te dire éventuellement à ce moment-là « Ah oui, mais bon, par rapport à ma ligne éditoriale, il faudrait que je rajoute un trait d'humour ou un truc un peu plus léger. »
Là-dessus, je ne me mets vraiment aucune pression. C'est vraiment, je pense, faut savoir que en effet, en étant une personne racisée, on a une charge... je pense, hein, plus forte sur les réseaux sociaux, notamment par rapport à la qualité de contenu que l'on doit produire. C'est-à-dire que si on veut être vu, si on veut être visible et entendu, il faut quand même, et surtout progresser à une vitesse assez intéressante, il faut articuler sa pensée autour quand même de contenu très qualitatif, quoi. Contrairement à des personnes, par exemple, blanches, qui peuvent se permettre, par exemple, de prendre une photo comme ça, et voilà, très intéressante, mais bon, on va dire juste comme ça, le fait que mes photos soient extrêmement travaillées, que je me base sur une esthétique aussi très rigide, c'est notamment aussi pour contrer justement ce système qui va valoriser de base, enfin, il faut toujours, comme on dit, il y a vraiment ce côté, même si on essaie de descendre ça, bah, ce côté, il faut faire trois fois plus, quoi, même si c'est pas... en soi quelque chose qui devrait être comme ça, aujourd'hui en tout cas c'est comme ça, faut vraiment avoir une exigence deux fois plus, quatre fois plus, quoi, que pour un compte on va dire normé, quoi. Et donc déjà là-dessus, je pense que ça met déjà quelques pressions, et du coup, bah, je me mets vraiment pas de pression. Et quand notamment j'écris ces articles qui me demandent énormément de recherche, parce que pareil, toujours ce gage de qualité, il faut vraiment avoir pensé un peu à toutes les têtes de leaders possibles, voilà, sociales, écologiques, antiracistes, voilà, etc. Le fait de penser à toutes ces têtes-là, bah, ça demande quand même une énergie que j'ai pas toujours. Du coup, bah, soit je la garde pour des conférences, et là, pour le coup, mon énergie est condensée, elle est ciblée. Soit vraiment, quand j'ai vraiment beaucoup plus d'espace dans ma vie, Voilà, donc c'est pour ça que ça varie en fonction des postes. Et très souvent, en effet, la légèreté que peuvent m'offrir les réels, bah, ça, par exemple, que je vais faire de cuisine, ça me permet de parler parfois de manière un peu plus profondément de sujets qui fâchent en story ou à la fin, histoire aussi de gérer la violence que je peux me prendre aussi en retour. Voilà, il faut avoir la foi d'aller jusqu'au bout, quoi.
Ouais. Merci Charlotte. C'est super intéressant du coup cette analyse, tu vois, que j'avais pas forcément sur vraiment le travail de la forme, qui en fait, ne serait-ce que par la forme, il y a une réflexion politique. Camille, toi, justement sur cette même question de la balance ou de comment contrebalancer parfois un fond qui va être très politique et de lui ramener de la légèreté, ou au contraire d'avoir quelque chose de très léger et d'essayer de le rapporter aux politiques, est-ce que toi, tu t'autocensures ou tu te poses des questions sur la publication d'un poste, ou finalement l'alternance se fait de manière assez naturelle?
De mon côté, j'ai aussi une alternance qui se fait de manière naturelle. Je pense que c'est aussi très étroitement lié à l'état émotionnel dans lequel je me trouve. C'est-à-dire que si on est dans une période électorale, par exemple, où j'entends des choses qui me mettent en tension, je pense que je vais avoir peut-être plus envie de tenir un propos plus politisé. Et puis parfois j'ai juste aussi envie de légèreté. J'essaye de pas être que dans la légèreté et que toujours un contenu serve un propos au maximum. Et puis quand c'est politique, je me limite pas à, enfin je m'empêche pas de faire quelque chose qui soit juste dans la vindicte. Mais pour autant, j'essaye quand même de toujours le twister, de lui amener cette petite touche qui fait que le message va peut-être plus passer, que ce soit sur le format ou juste la mise en forme, quoi. Enfin, c'est un peu la même chose, mais je me suis comprise.
Et Camille, tu vas aussi beaucoup sur le terrain, ça fait partie d'ailleurs de tes spécialités, d'aller visiter des fermes, d'aller voir des écolieux, etc., de le passer. Est-ce que justement par rapport à cette maxime où on dit qu'un bon acteur ne peut pas être en même temps un bon communicant et qu'il faut choisir entre les deux, est-ce que tu ressens ça quand tu es sur le terrain où en fait tu peux pas filmer et parfois tu te dis bon allez, là cette semaine-là je ne filme pas et tant pis, c'est pour moi et après je le transformerai en opération de com, ou est-ce que tu arrives à faire naturellement les deux? Comment tu lis justement cette expérience terrain et cette expérience média et qu'est-ce que tu préfères?
Alors, quand tu l'as dit en intro, justement, Hélène, ça m'a vachement marqué parce que ça a beaucoup résonné. Je me suis dit, ah oui, c'est tellement vrai. quand je suis sur le terrain, je n'arrive pas à créer du contenu en flux tendu et qui soit en plus de qualité et où il y ait une prise de recul, de hauteur pour pouvoir justement... amener du fond. Et puis tout simplement j'aime être dans l'instant présent et me dédier à 100% à ce que je vis, ce que je vois et les personnes autour de moi pour être pleinement disponible et absorber tout ce qui se passe et ensuite le retranscrire et ensuite amener de la narration, parce qu'il y a incontestablement une partie de storytelling aussi, d'interprétation de ce qui s'est passé, de ce que j'ai vécu. Et donc, du coup, j'alterne un peu entre les deux. Ce qui fait d'ailleurs que sur mon média, sur Instagram, mon activité va être irrégulière, entre guillemets, parce que y a des phases où je vais publier beaucoup de contenu parce que j'aurai amassé beaucoup de contenu à transmettre, et puis il y a des phases où juste je me concentre sur ce que je suis en train de faire et là je peux disparaître des réseaux sociaux. Quant à ma préférence sur les deux, honnêtement j'aime les deux et j'aime qu'ils alternent comme ça dans ma vie sans que je me mette une pression à justement poster ou aller sur le terrain. Mais en fait, je sens que quand je me retrouve trop en ligne, il y a un moment où justement l'appel du terrain se fait très fort et me manque, et j'ai besoin de me reconnecter à cette réalité-là. Voilà, tu vois, c'était l'époque des bonnes résolutions de l'année 2022. Moi, dans mes objectifs de 2022, il y a faire au moins une action de décès, de désobéissance civile, tu vois. Parce que je sens que ça fait longtemps et en fait, ça me permet de m'aligner et de me rappeler ce pourquoi je fais ce que je fais. Voilà.
Et Charlotte, toi, par rapport à tes activités aussi de traiteur, d'autrice, de conférencière aussi, quel est ce que tu préfères entre les deux? Est-ce que tu vois vraiment la différence et la difficulté d'allier les deux?
Bah moi, je pense que j'ai des choses un petit peu parfois qui peuvent me perdre justement dans mes valeurs. C'est notamment cette course à la création de contenu qui parfois m'éloigne un peu de mes objectifs. À la base, j'ai créé Mangeuse d'herbe juste pour donner des recettes, parler de véganisme et d'antispécisme à des gens qui voulaient bien m'écouter, parce que je pense que mon entourage saturait clairement. Donc, c'était vraiment, pour moi, ça a été vraiment une expérience hyper importante, parce que ça m'a permis de relâcher cette pression où j'avais besoin d'agir, parce que j'avais fait notamment pas mal d'actions en physique qui m'avaient franchement déplu. Voilà, que ce soit des manifestations, des blocages d'abattoirs.
Alors ça, c'est super intéressant, parce que du coup, toi, tu as commencé par un militantisme, on va dire, ouais, IRL, dans la vie réelle. Mm-mm. Et ça t'a déplu, d'où la raison de l'arrivée sur les réseaux sociaux. Ah, c'est super.
Tout à fait, oui. C'est-à-dire que j'ai commencé par des petites actions comme ça. Et en fait, j'étais vraiment, comment dire, déjà, j'ai fait du prospect, j'ai fait aussi des cubes.
Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, j'imagine que tu les as fait avec 269 Life ou...
Ouais, avec Anonymous Voiceless.
Anonymous Voiceless. Ouais.
Donc c'était très intéressant, mais c'est vrai que on a des ordinateurs qui projettent des images de sensibilisation, de réalité dans les abattoirs ou dans les élevages, et bien sûr on arrête les gens, on leur pose des questions. Est-ce que ça vous interroge? Est-ce que vous pensez que ça c'est plutôt la norme? Est-ce que vous pensez que c'est voilà, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait, tout simplement, par rapport à toutes ces images et toute cette violence. Et c'est vrai que je ressortais extrêmement vidée, extrêmement un peu éteinte, déçue, parce que c'est vraiment difficile de capter l'attention des gens comme ça, qui font tout plein d'autres choses que ce qu'on est en train de faire. Et,
un peu l'impression du récolteur de dons Croix-Rouge ou Greenpeace, quoi.
Un peu, ouais. C'était un peu compliqué pour moi d'entrer dans ce milieu-là. Et puis pareil, les blocages d'abattoirs, j'ai trouvé que c'était extrêmement violent quand on était une personne racisée. J'ai fait « Ah, oula, c'est comme ça que ça se passe quand on se retrouve face à la police ». Du coup, il y a des réalités qui sont différentes pour chacun. Et il n'y en a pas juste qui sont juste traînés « Ouais, lâchez donc ». Donc, c'est des réalités qu'il faut prendre en compte, et notamment quand on parle de désobéissance civique, parce que je trouve que c'est extrêmement important, ça fait partie des leviers en fait révolutionnaires tellement indispensables. Mais dans une société inégalitaire, bien sûr, quand nous, on a plein d'images qu'on a envie d'agir, il faut soigner sur plusieurs pôles, quoi, en fait. Il faut vraiment être hyper vigilant. Et dans ce type d'association, c'est pas pris en compte, en fait. On est un peu... on est focus sur les victimes en question. Et c'est bien logique, quoi. Voilà, parce qu'on n'en parle pas. Il n'y a pas des personnes qui représentent ça, qui en discutent. Donc, voilà. Et donc, pour moi, ouais, ça a été vraiment... ça fait quoi? Ça va faire 5-6 ans que je suis végane. Et là, ça fait seulement 2 ans que je suis sur Mangeuse d'herbe. Donc, voilà, j'en pouvais plus d'être dans mon coin, à faire des manifestations qui me paraissaient, devant les lobbies de la viande et tout, qui me paraissaient un peu... j'entrais, j'étais épuisée, je me sentais sale, je comprenais pas trop, j'avais pas l'impression que ça allait beaucoup avancer. Et pourtant, ça m'a quand même beaucoup conscientisée, parce que j'ai échangé avec plein de personnes, de plein de milieux différents. Et ça m'a quand même montré que j'avais envie de bouger, quoi. Et à travers cet espace qui me paraît toujours aussi très, très safe, même si je peux me prendre une violence digitale, ça me paraît encore très, très, très safe par rapport justement à ce militantisme en vie réelle, quoi. Et c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose qui me convient bien. Je compte quand même mettre en place, notamment là, j'ai plusieurs projets avec de retraite avec des sanctuaires, justement pour informer, conscientiser sur qu'est-ce que c'est aussi les animaux qui ne sont pas domestiqués ou alors qui ont été sauvés ou qui se sont échappés, qu'est-ce que c'est la résilience animale, la résistance animale aussi. Donc voilà, d'aller plus sur le terrain, mais c'est vrai que ça m'a tellement traumatisée, toutes ces parties activiste animaliste que là j'y reviens petit à petit, mais je comprends vraiment que c'est pas pour tout le monde, quoi, pour le coup.
C'est très intéressant parce que là on touche vraiment du doigt le fond du paradoxe entre le média activisme et l'activisme dans la vie réelle. Bien que je n'aime pas du tout cette appellation parce que ça veut rien dire, le digital est dans la vie réelle et a un impact dans notre vie réelle, on n'a qu'à penser au cyberharcèlement pour se rendre compte que c'est du vrai harcèlement et que c'est pas quelque chose de virtuel, mais on pourrait aussi faire l'analogie via aussi l'impact carbone, via l'impact dans la vie réelle, le matériel informatique, etc. Donc en réalité on voit que c'est pas tant l'opposition de la vie sur le terrain ou de la construction de contenu en ligne, mais c'est plutôt la complémentarité des luttes et les actions par rapport à notre profil. Est-ce qu'on se met en danger? Est-ce que ça nous correspond? Quel type de population on va toucher aussi? Est-ce que vous avez déjà eu à essuyer des critiques sur ce qui est là où encore paradoxal et qui est totalement lié à cette première analyse qu'on en a faite, qui est que finalement, dans les actions présentielles, on a l'impression de toucher peu de monde, parce que forcément, c'est très rare qu'on puisse toucher 3000 personnes sur une action présentielle. Un cube, comme tu le disais, on va toucher peut-être 10 personnes qui vont vraiment s'arrêter sur une après-midi pour discuter avec nous. Et de l'autre côté, sur les réseaux sociaux, on a toujours la critique de « oui, mais bon, c'est les réseaux sociaux, en fait, ça n'a pas d'impact dans la vie réelle des gens, c'est pas pour ça qu'ils vont vraiment changer ». Alors que les influenceuses beauté, elles vendent plein de produits et plein de voyages à Dubaï dans la vie réelle, juste avec les réseaux sociaux. Donc, comment vous répondez à ces critiques, Camille, peut-être d'abord, sur « oui, d'accord, c'est résistante en carton de le faire depuis Instagram, quoi ».
Moi, en fait, bon, déjà, ce genre de critique m'intéresse peu parce qu'en soi, je pense qu'on a tous une manière de lutter et d'entrer en résistance et qu'elles sont toutes valables, toutes complémentaires et qu'on a besoin de tout. J'aime bien donner l'exemple que quand on fait un blocage ou quand on est sur une ZAD, on a autant besoin des personnes qui vont être bloqueurs, bloqueuses que l'on a besoin de personnes en base arrière pour leur faire des sandwichs. Donc, si notre but, si on sait cuisiner, c'est ça qu'on fait, c'est une manière aussi d'aider.
Ou faire
d'aider
pression la via la communication, d'ailleurs.
Exactement. Et d'ailleurs, quand on regarde dans toutes les organisations militantes les différents postes et les différents rôles que l'on peut trouver sur une action, il y a, au même titre que les médics et les bloqueurs, il y a la personne qui va s'occuper de la com. Et c'est un rôle qui est extrêmement important parce qu'en effet, il ne s'agit pas seulement de faire l'action, mais surtout de la faire rayonner, d'en parler. Et donc, du coup, je sais pertinemment que ce rôle-là, il est important. Ce qui me rassure d'une certaine manière aussi, c'est que empiriquement, je réussis à glaner à droite à gauche quand j'ai des retours spontanés de ma communauté ou alors que je fais la rencontre aussi des personnes dans la vie réelle, j'ai des retours comme quoi oui, il y a des habitudes qui ont changé, oui, il y a des modes de consommation qui ont changé, il y a des actions qui ont été faites, il y a des formations qui ont été suivies et je sais en fait que c'est un relais, j'ai du mal à le quantifier évidemment, mais je sais qu'il y a un impact. Pour moi, les deux sont vraiment complémentaires parce que au contraire de Charlotte, moi, j'ai l'impression que sur le terrain, comme je réussis à voir mon impact en direct, entre guillemets, j'ai l'impression, mon sentiment, c'est que j'ai l'impression que j'ai plus d'impact que quand je suis en ligne et que là, bon, bah, je vais partager une réflexion, je vais partager un contenu, je vais partager un chiffre, mais derrière, qui le reçoit, qui le lit vraiment, qui rentre en action suite à ça, je ne le sais pas, en fait. Donc du coup voilà. Pour moi, les deux se valent. Et en fait, on a vraiment, encore une fois, on a besoin de tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui déciderait d'être militant, militante que sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. Enfin, moi, je me suis déconstruite sur plein de sujets grâce à des militants et militantes qui prenaient la parole. À l'inverse, des personnes qui sont anti-réseau, qui sont anti-technologie et qui ne font qu'avoir des actions sur le terrain, je trouve que c'est hyper inspirant aussi. Donc voilà, moi j'aime bien naviguer entre ces réalités-là et au contraire tisser des liens en fait entre ces différentes formes de militantisme.
La question de la complémentarité, oui, qui nous est très chère chez Denis aussi, et d'accepter de pouvoir donner de la visibilité aussi à des personnes qui en ont moins. Et du coup, bah, Charlotte en parlait en introduction, justement, avec la visibilité des personnes racisées, la visibilité des femmes, la visibilité aussi des, voilà, des personnes discriminées ou autres, ou même, et d'ailleurs, ça peut rentrer parfois dans la catégorie des personnes discriminées, des personnes, bah, à qui on ne va jamais donner la parole dans des ZAD, etc., si ce n'est via justement des gens qui vont s'y intéresser, vont aller sur le terrain, leur donner la parole, relayer ces luttes, faire l'effort de pédagogie et d'éducation populaire. Et par rapport à l'opposition du digital, et c'est vrai, la mesure d'impact, elle est très difficile, à part voilà, le nombre de likes ou de personnes qu'on repartageait et qu'on dit une recette, ou tiens, grâce à toi, Charlotte, je me suis mise à l'alimentation végétale, ou grâce à toi, Camille, bah, j'ai fait ceci, cela. C'est vrai que MeToo, par exemple, si on réfléchit dans la révolution féministe, était 100% déclaratif média en ligne à la base, et a eu des répercussions encore des années après, bien, bien dans la vie concrète, voire même dans la législation, dans les habitudes. Charlotte, par rapport à ça, toi, tu as déjà dû essayer des critiques et avoir à y répondre, ou quelle est ta réaction par rapport à ça?
Oui, alors c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas vraiment des critiques, mais ouais, un questionnement en tout cas. On m'a déjà posé un questionnement gentiment, et je pense que bah, c'était très intéressant, et c'était notamment bah, d'une population qui m'apparaît quand même très radicale, comme dans le bon sens du terme, comme les antispécistes. Qui justement, bah, on va souvent entendre quand on fait des recettes, ah, tu crois que le changement il va venir avec le gâteau à l'ananas ou des choses comme ça. Et c'est quelque chose avec lequel je suis absolument d'accord. C'est pour ça que je suis un peu en lutte avec le végétalisme, puisqu'il n'inclut pas une déconstruction en fait des valeurs et une simple alimentation. On sait aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu autant de personnes qui passent végétalien, et pourtant il n'y a jamais eu autant de tueries qu'en ce moment, quoi. Ça n'a pas bougé à ce niveau-là. Du coup, on comprend bien que soit c'est parce qu'on est sur des bases de flexitarisme, parce que le véganisme, comment est-ce qu'il s'applique et comment est-ce qu'il peut devenir un changement? C'est si ça devient un changement profond et aussi moral, hein, idéologique. C'est-à-dire que si ça se veut vraiment, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce côté abolitionniste et travailler sur le fond. Donc pour moi, en effet, je trouve que c'est absolument légitime quand on se dit, oui, voilà, c'est pas avec 3-4 recettes qu'on va changer le monde, surtout qu'il y a des personnes qui, voilà, vont dire c'est très bon, mais je continue, ou des choses comme ça. Donc pour moi, c'est important que le discours suive et que ce soit un discours radical et qui emmène vers des actions, donc pour connecter avec des choses plus, peut-être plus réelles, ben voilà, plus dans le dur, quoi. Histoire de vraiment rappeler, moi c'est quelque chose que j'aime bien rappeler aux personnes que, bah, voilà, que ce soit végétalien, c'est être vegan, ne pas acheter de fourrure ou ne pas participer. Voilà, c'est juste ne pas participer, hein, on n'est pas des héros en mangeant pas ça ou ça, on refuse juste de participer. Et clairement, si on veut être dans l'action animaliste, ça ne suffit pas, il y a encore autre chose. Donc j'aime beaucoup aussi rappeler que c'est un point de départ, que ça ne suffit pas, que c'est, et que vraiment ce côté aussi humilité par rapport aux réseaux sociaux, que c'est quelque chose, je pense, qui est très important bah, de travailler ça, parce qu'aussi les gens peuvent se dire, peuvent se sentir apaisés en se disant, bah voilà, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait une recette, j'ai fait un petit truc par là, voilà, je prends des cotons démaquillants réutilisables. Ça peut être très intéressant, et loin de vouloir les culpabiliser, c'est juste remettre, je pense peut-être au cœur du sujet, les victimes, les potentielles victimes humaines et non humaines qui vont se présenter, quoi. Donc, pour moi, c'est une bonne question. Et je pense que voilà, c'est complètement légitime. Et comme disait Camille, pour moi aussi, c'est indissociable. C'est juste qu'en effet, j'ai l'impression que sur les réseaux, j'arrive à faire un travail idéologique plus profond, notamment bah, par exemple par rapport à ma communauté qui est sous-représentée dans les milieux écologiques ou animalistes. Le fait d'incarner ou d'être une personne noire, de partager des personnes noires qui aiment les animaux, rien que ça, c'est... Vous tapez par exemple Google, Black Person Animals, vous allez tomber sur des personnes blanches en couleur noire et blanc avec des animaux. Vous voyez, il y a vraiment toute une invisibilisation par rapport juste au fait de pouvoir être une personne noire et apprécier le vivant. Voilà, donc déjà pour moi, tout ça c'est aussi représenter, montrer aussi, avoir un discours qui est audible par rapport à ma communauté, parce que culturellement, il y a des choses qui ne passent pas, tout simplement. Il y a des discours qui ne fonctionnent pas. Voilà, quand on se retrouve être la seule personne noire dans une association animaliste et écologiste, parfois ça peut être un peu tendu, même si on ne montre pas forcément. Et voilà, vraiment adapter le discours pour que voilà, les gens se sentent concernés et aussi qu'on parle un peu d'eux, quoi, parce que pas toujours le cas.
Alors, merci beaucoup. Du coup, on arrive sur... Je vais te laisser la parole, Camille.
Juste rebondir sur ce que vient de dire Charlotte pour compléter, parce que je suis une grande fan de son travail. Et justement, le travail de visibilisation qu'elle fait, il fait beaucoup, beaucoup de bien. Parce que justement, pour moi, il y a une véritable révolution culturelle qui s'opère à travers ce rendu visible. Sur énormément de sujets d'ailleurs, pas que celui de l'amour des animaux.
Merci.
Alors, merci pour ce point, et du coup ça fait le lien avec une des dernières thématiques qu'on va traiter, puisqu'on s'approche de la fin de notre discussion, mais ça fait le lien avec une définition qu'on n'a pas faite en introduction, et c'est mon erreur en général, je redéfinis toujours les termes du sujet pour introduire, mais c'est vrai qu'on n'a pas redéfini le terme de média-activisme, alors peut-être parce que c'est difficile, mais aussi parce que, comme le disait Charlotte, il y a quand même une différence à faire, et je pense que c'est pas seulement pour vous rendre honneur, mais pour transcrire la réalité. Il y a une différence énorme entre des influenceurs Instagram et des médias activistes. Et donc, évidemment, tout n'est pas à mettre dans le même sac, même si on a besoin d'une complémentarité, même si, OK, les petits gestes peuvent mener à plus de radicalité et on peut avoir des comptes plus légers auxquels les gens vont s'abonner plus facilement et avoir une cohérence et un devoir, quelque part, une responsabilité de partager des choses plus politiques et de le faire aussi de manière politique. Mais du coup, cette différence, est-ce qu'elle se fait ? Est-ce que déjà... Pour vous, le fait d'être sur les réseaux sociaux, c'est votre source de revenus principale ? Et donc, c'est quand même pas à négliger dans la définition du terme, et surtout sur l'acceptation de, OK, on peut critiquer plein de choses, mais au bout d'un moment, il faut bien que les gens vivent. Et si on a des personnes qui ne peuvent plus communiquer, alors que c'est un métier, justement, on va avoir une perte de lobbying militant très importante sur les réseaux sociaux, et du coup, on n'aura plus que des Zemmour, des extrêmes droites ou des influenceurs à Dubaï qui prendront cet espace parce qu'eux sont professionnels sur les réseaux. Ça, c'est d'une part la question du business model et du coup, d'autre part, la question de la charte. Qu'est-ce qui différencie un média activiste d'une personne juste qui vivrait des réseaux sociaux mais qui n'aurait pas de charte éthique individuelle et qui repartagerait un peu tout et n'importe quoi, toutes les notions de collab, voilà. Du coup, ces notions sont liées et je pense très importantes sur cette question. Vos avis, du coup, Camille, premièrement, et puis Charlotte ensuite.
Pour moi, le média activisme, en fait, c'est utiliser un média pour le transformer en outil de sensibilisation et de pédagogie, en fait, au service d'une cause, d'un enjeu sociétal, environnemental, démocratique. Et c'est utiliser ce média aussi comme outil d'amplification d'action pour essayer de poser une définition, enfin là comme ça à chaud. Aujourd'hui, quand on fait ça,
mais c'est tu un peu envie le... la question du business model aussi.
Voilà, exactement. Mais en fait, ça c'est un peu le contrat de départ. Et comme n'importe quel, par exemple. Médias indépendants, donc je prends Monsieur Mondialisation, La Relève et la Peste, Blast, etc., donc, qui sont exempts de publicité, du coup, il faut trouver un business model où on est soit en autofinancement, sauf que nous, on s'adresse… je vais parler en mon jeu. Moi, je m'adresse à des personnes où je n'ai… J'ai beaucoup de mal à demander un financement, même si je pense que c'est en tout cas le moyen le plus pur, entre guillemets, parce qu'il est sans filtre. Mais en même temps, on a des comptes à rendre aussi. Ça amène une forme de pression parce que du coup, bah, typiquement, est-ce que je peux vraiment disparaître des réseaux pendant 2 mois parce que je vais sur une ZAD et que du coup, on me paye, mais je ne produis pas de contenu. Donc, ça pose ces questions éthiques-là de responsabilité par rapport à son employeur quand c'est des milliers d'employeurs et employeuses. Donc, première chose. Et ensuite, moi, j'ai fait le choix de ne pas demander à me faire financer par des personnes qui ont, j'estime, d'autres soucis financiers et de faire des partenariats, en effet, et des collaborations. Là-dedans, donc ça, c'est le business model que j'ai choisi pour pouvoir consacrer du temps, un maximum de temps, en tout cas, à mon média. Il faut savoir que là où j'ai de la chance, il y a quand même des associations qui payent et des fondations qui payent pour faire de la création de contenu. Donc, d'une certaine manière, œuvrer aux côtés des associations, ça remplit le contrat de départ pour moi. Quand je travaille main dans la main avec Greenpeace ou Sea Shepherd, ça me semble hyper logique comparé à ce pourquoi j'ai lancé cette page à l'origine. Et après, en effet, se pose la question de quand on fait une collaboration avec une marque, aussi éthique, écologique et engagée soit-elle, ça reste du business, ça reste faire marcher la machine capitaliste. Et donc, du coup, là, moi, je ne suis pas toujours alignée, en fait. Ça me pose toujours question. Surtout que la charte éthique, elle est propre à chacun. Chacun a la sienne. Il n'y a pas encore à date de syndicat sur le sujet de créatrices et créateurs de contenu. Et donc, du coup, chacun fait en fonction de son alignement intérieur et aussi de son contexte personnel du moment. C'est-à-dire que demain, pour une raison X ou Y, le flux financier devient très important pour moi. Peut-être que je vais prendre plus de partenariats avec des marques éthiques et écolo, mais donc du coup, il y aura beaucoup de contenu sponsorisé, entre guillemets, comparé à ce à quoi je voulais dédier ma page à l'origine. Donc en fait, c'est tout ça à prendre en compte. Et honnêtement, personnellement, je n'ai pas du tout la réponse et je ne me sens pas droite dans mes bottes tous les jours, quoi.
Merci Camille pour cette honnêteté radicale. Charlotte.
Oui, bah, merci Camille, parce que ouais, ce que tu as dit, ça résonne beaucoup. Alors moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire des partenariats pour de multiples raisons. Je ne vais pas me répéter sur, voilà, sur bah, voilà, le fait d'être une
Racisée.
pseudo-influenceuse racisée. C'est vrai que bah, pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup de choses en plus qui me freinent à faire des collabs. Il y a aussi des choses qui m'intéressent plus que d'autres, notamment le fait, bah, par exemple, de travailler avec des entrepreneurs femmes, noires, par exemple. Bah oui, moi aussi, je me heurte à cette vision du capitalisme. Et en même temps, on sait que les populations noires ne sont bah, celles qui sont les moins riches. Donc, à un moment, il va falloir survivre. Si je peux aussi les valoriser et quand elles sont alignées avec mes valeurs, bah, je me dis que c'est tout bénef aussi. Bien sûr que je suis pour la décroissance, voire l'arrêt complet de cette consommation, mais il y a une réalité pour des personnes bah, voilà, qui tous les jours bah, doivent survivre, payer leurs factures qui sont évidentes, et pour moi aussi. Donc, ce n'est pas encore des choses que j'ai mis en place. Pour l'instant, je ne vis pas de mon activité. Mais c'est vrai que c'est une réflexion bah, qui me gêne pas mal, dans le sens où c'est vrai que j'aimerais pouvoir me concentrer bah, voilà, à 200% dessus, et c'est ce que je compte bien faire. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il va falloir vivre, quoi, et pas cumuler voilà, des travaux, attendre bah, voilà, des conférences qui peuvent un peu plus me rémunérer, et encore, ça, c'est pas tout le temps. Et moi aussi, je ne me vois pas demander aux personnes qui me suivent voilà, un financement, même si je trouve aussi que c'est complètement logique. Mais après, c'est peut-être par rapport à mon éducation, voilà, je me dis aussi que voilà, je ne le fais vraiment pas pour que les gens financent. Donc maintenant, j'ai trouvé d'autres modèles, comme par exemple le fait de sauvegarder mon savoir avec mes recettes, et parfois de créer des e-books, ou alors de créer des guides et ensuite de les faire payer, même si c'est pas très très cher. Et voilà, bon, j'ai vraiment commencé ça cette année. Du coup, j'ai pas un très gros recul dessus. Et je me dis que pour moi, c'est la forme, entre guillemets, la plus pure. C'est produire quelque chose. Voilà, concentrer tout ce que j'ai même pu accumuler pendant ces expériences, avec ces échanges. Je pense beaucoup à des guides de questions-réponses, vu que j'échange beaucoup, j'argumente beaucoup avec des personnes sur les réseaux sociaux qui viennent voilà, me poser des questions de manière bienveillante. Et du coup, c'est vraiment ce qui m'apparaît le plus pur, après le plus réaliste, produire des trucs comme ça avec un niveau d'exigence pas possible, voilà, tous les mois, je ne me vois pas non plus être aussi dans cette course à la production. Du coup, je ne suis absolument pas dans le jugement pour les personnes qui vont accepter des collaborations à partir du moment où il y a quand même un minimum d'éthique. Faut savoir que à travers toutes ces collaborations, il peut aussi se poser des problématiques d'appropriation culturelle qui sont dans le milieu écologique, sustainability, etc. Mais alors là, mais c'est viscéral, c'est incroyable. Donc à la fois, je comprends cette volonté de faire mieux, mais très souvent avec des matières premières qui ne viennent pas d'ici, avec un soi-disant fair trade, voilà, quand on est une personne racisée, avec des designs qui picotent les yeux. Donc ça peut être vraiment très compliqué. Et en même temps, je ne suis pas du tout dans le jugement, parce que je comprends que voilà, ça puisse être une nécessité. Et je me dis que, je sais pas, on consomme plein de contenu de personnes qu'on admire, et pourtant, bah, derrière, quand on retourne, et bah, c'est sponsorisé un tel. Et je pense qu'on a aussi cette capacité à faire la différence pour des personnes peut-être qui ont plus de capacité on arrive bien à faire la différence en se disant, bah, je ne sais pas, telle actrice a joué dans ce film, voilà, où ça a été poignant, c'est super bien. Et puis en fin de compte, voilà, c'est tenu par des entreprises ultra racistes, quoi. Et pourtant, voilà, on va peut-être avoir plus de bienveillance pour ces personnes parce qu'on se dit qu'elles font déjà un travail incroyable et qu'elles ne sont peut-être pas à notre niveau. Donc je pense vraiment cette bienveillance à travers des personnes qui en plus n'ont pas énormément de moyens, énormément de retours et font vraiment du mieux qu'elles peuvent. Et bah, je pense que c'est vraiment nécessaire, quoi, parce que le militantisme parfait, ça n'existe pas. Et en effet, je comprends que tu ne sois pas toujours droit dans tes bottes, tu ne te sens pas ultra aligné avec tes convictions, mais enfin voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment une charge que l'on met sur des personnes toutes petites, alors que bon, voilà, c'est mon avis, quoi.
Merci Charlotte. On a une autre Charlotte d'ailleurs qui a rebondi sur cette exacte même thématique de la charge en la rapprochant de la charge mentale féminine et a fortiori féminine racisée. Et du coup, de dire qu'être une femme et a fortiori être une femme noire, c'est aussi moins osé parce qu'on n'a pas été socialisé dans le camp des winners, dans le camp des dominants. Et donc, il y a aussi une question de valoriser son travail qui pose question sur les réseaux sociaux, qui pose question. Alors, c'est une question qui dure depuis des siècles et des siècles. Hein. Moi, j'ai relu les mémoires de Kropotkine, même sur l'anarchisme, se posait la question de la facturation des premiers magazines, des articles anarchistes aussi, lors des premiers, de la première grande syndicale internationale en Suisse. Enfin, du coup, c'est des questions sans fin où on n'aura jamais probablement totalement la réponse dans ce système de domination capitaliste où la valeur est basée sur l'argent. Il n'y a plus trop de troc et du coup forcément cette valeur argent, bah, il faut bien réussir à, eh bien, à travailler avec, à faire avec, à trouver des compensations, etc. Il y a des médias comme Mediapart qui arrivent à avoir une partie gratuite et une partie payante. Il y en a d'autres qui ne vont pas oser aller sur la partie payante et faire des business models où ils vont trouver des revenus autrement. Bon, c'est des choses qui sont en énorme exploration et changement actuellement, surtout avec ce nouveau métier d'influenceur qui n'existait pas il y a encore à peine quelques années, c'est ça qui est incroyable. Et qui, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une expérimentation sur Instagram aux États-Unis où il y a des comptes qui peuvent se mettre en cachet. Et en fait, il n'y a que en faisant une subscription de quelques euros par mois que le compte redevient visible. Pour les très gros influenceurs de plusieurs millions, en fait, ils ont l'opportunité de cacher leur compte et de le faire à quelques euros. Donc, est-ce que ce sera un futur? Est-ce que c'est souhaitable? Là, on rentrerait dans un autre débat qui n'est pas du tout le débat de ce soir et nous n'en avons pas le temps et surtout, je n'ai pas fait de recherche dessus, donc je serais bien en difficulté pour pouvoir l'animer. On a aussi d'autres questions. Léa qui nous parlait des algorithmes sur les réseaux sociaux qui privilégient les discours de droite. Donc c'est épuisant effectivement quand on a des médias qui sont eux-mêmes la source même de nos problèmes capitalistes et son incarnation. Alors là aussi c'est un autre débat, c'est le débat de est-ce que s'il y avait demain ce qui existe déjà quelque part, des logiciels libres plus éthiques, est-ce qu'on irait dessus? Mais est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied parce que du coup on a moins d'audience? Donc, on entraîne moins un changement de paradigme et d'idéologie. Et enfin, on a une autre question. Je fais un peu la synthèse de tout ce qui a été posé pendant nos discussions se posait la question. Là aussi, c'est un autre débat. Donc, Charlotte, si tu veux répondre vraiment en deux phrases, je te laisse la parole. Je sais que ça va être compliqué parce que moi-même, étant abonnée au cahier antispéciste, c'est une question qui prendrait quelques milliers d'heures, je pense, à pouvoir répondre. Mais ne penses-tu pas que le welfarisme est plus adapté à notre société contre l'abolitionnisme que tu prônes? Est-ce que tu as quelques pistes? Je sais que ça va être très frustrant, mais quelques pistes à donner vers lesquelles renvoyer peut-être Simon?
Ah non, je... active, ok. Alors, je vais essayer de faire vite. Pour moi, le vrai problème, c'est vraiment l'exploitation animale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'arrive pas à changer cette hiérarchie. Alors, j'aime pas trop faire des analogies avec l'esclavage, mais on va dire que c'est plutôt des critiques de système qu'il faut voir. C'est-à-dire que vraiment, le moment où ça a vraiment switché, je pense, c'est là où c'est devenu inacceptable, bien sûr, parce que les personnes se sont libérées elles-mêmes, je le rappelle, et aussi, ben voilà, ont cassé ce système qui n'était plus viable. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu un moment, il y a eu un switch en fait idéologique où ce que j'appelle un peu le pouvoir de la honte, où ce n'est plus acceptable de trouver correct d'exploiter tel ou tel animal pour ses ressources, pour son lait maternel, pour son corps, pour sa chair, etc. Donc vraiment prendre en compte, je pense, et considérer l'animal comme un être qui a ses propres besoins de faire des choses aussi inutile que nous, par exemple, vivre, s'accoupler, faire des bébés ou pas, dormir. C'est vraiment une considération, je pense, qui est profonde, qui va permettre un changement profond. Sinon, on sera toujours dans cette exploitation, toujours par rapport à qui, par rapport à quoi, une violence tolérable pour qui, pourquoi. Tout est relatif. Et ce niveau de violence ne descendra pas, parce que croyez-moi, il y a des choses que, par exemple, certains welfaristes vont trouver complètement acceptables parce que c'est une progression, mais qui reste tout aussi violent pour des êtres vivants sentients.
Merci beaucoup, Charlotte. Félicitations pour avoir relevé ce défi en moins d'une minute. C'est extraordinaire. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette discussion très riche, toujours aussi frustrante, parce qu'évidemment, on ouvre plein de portes dans lesquelles il serait très intéressant de s'engouffrer. Mais bon, manque de temps. Et puis, c'est déjà un podcast qui va durer à peu près une heure à l'écoute. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Peut-être en conclusion, c'est vrai qu'on s'aperçoit de la nécessité d'accepter la diversité, la complémentarité et les oppressions dans nos luttes. C'est jamais simple, il y a beaucoup de déconstruction à faire, il y a beaucoup de tests aussi, d'expérimentation, parce qu'après tout, les réseaux sociaux sont une terre en exploration, en changement, et ça peut être nous aussi qui en changeons. Par exemple, je pense aux Free Nipples, des refus des règles des réseaux sociaux dictés par le puritanisme blanc américain. Ça peut être aussi des refus aussi de discours oppressifs sur les réseaux, de discrimination, de fonctionnement capitaliste. Alors évidemment, ça n'ira jamais assez vite pour certains. On aimerait que ce soit beaucoup plus radical. On aimerait... Et il y a des débats qui sont sains hein, au sein même du milieu écolo dans lequel Edeni se meut, qui disent que c'est très bien les petits gestes, d'allier la légèreté, tout ça, mais on n'a pas le temps. Et en fait, c'est criminel de ne pas aller toujours droit au but contre l'industrialisation, contre la civilisation, contre toute forme d'exploitation, etc. Et tout ce qu'on fait pour ménager, pour attirer plus de monde, c'est une perte de temps, tout comme serait une perte de temps le fait de voter, alors qu'on vote toujours pour nos dominants et nos exploitants, et puis surtout quand on regarde la tête de de ceux qu'on nous propose, enfin de ceux qui s'imposent et qui arrivent en haut de la pyramide, c'est vrai que c'est peu réjouissant. Mais voilà, on est dans une société avec beaucoup de paradoxes, et c'est à l'image de ce débat du jour, ou en tout cas de cette discussion autour du média-activisme. Merci beaucoup à toutes et à tous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité à Edeni, et merci à nos invités, surtout à qui je laisserai le mot de la fin en une petite phrase. Et je sais que je vous prends un peu à partie parce que je ne vous ai pas prévenu avant, mais j'aime bien vous demander une ressource que vous aimeriez partager, que ce soit un livre, un podcast, n'importe quoi, sur ce sujet ou proche si possible, mais ça peut être proche de vos luttes évidemment, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de ressources pour avoir préparé cette conférence, j'ai pas trouvé énormément de ressources sur le média-activisme, donc voilà, je vous laisse à chacune, peut-être d'abord Camille, puis Charlotte, un mot de la fin en quelques phrases et une ressource à partager, et on terminera là-dessus. Merci.
En ce qui me concerne, mon mot de la fin, ce serait de dire, pour rebondir sur le mot paradoxe, que moi, mon travail sur les réseaux sociaux, il aura abouti quand je pourrai plus le faire, quand les réseaux sociaux auront disparu. Voilà. Donc, pour moi, ça résonne pas mal ce mot-là. Et une ressource que j'aimerais partager, bah, franchement, c'est vrai qu'il n'y a, a pas de littérature là-dessus, donc je dirais plutôt peut-être parler du pouvoir le livre de Philippe Biwix sur les low-tech. Je crois que c'est le pouvoir des low-tech. Pour l'âge des low-tech, pardon, pour justement amener un éclairage différent sur le futur, parce qu'au final, le cœur du sujet, c'est aussi le numérique, mais c'est de voir aussi toutes les limites du numérique, et c'est pour ça, pour moi, que cette histoire de complémentarité, en fait, c'est presque une anticipation du futur, dans le sens où... au rythme où on va, bientôt, le numérique sera beaucoup moins central et accessible dans nos vies. Et du coup, c'est là que le militantisme terrain, lui, il vieillira jamais, entre guillemets, quoi. Voilà pour moi.
Trop bien, ouais, c'est trop bien ce que tu as dit, j'adore. Bah écoutez, moi, le mot de la fin, je dirais que faut aussi comprendre que la joie, c'est fédérateur. C'est important aussi de renouveler nos imaginaires de l'activisme à tous les niveaux. Il faut multiplier les outils, les attitudes pour que ça touche un maximum de personnes. Donc, pour moi, vraiment, associer la joie à des choses. Voilà, ça donne à des choses pas très marrantes, ça donne de l'espoir. Donc, gardez espoir et agissez. Une ressource que j'aime beaucoup, ce serait ce livre Undrowned, qui est un livre incroyable de Alexis Pauline, qui est donc sur le black féminisme. Et qui relie l'afroféminisme et l'animalisme. C'est-à-dire qu'elle part d'une réflexion sur justement tous les mammifères marins et elle en tire des leçons. Et ça, c'est une des plus belles choses que j'ai apprises avec le véganisme, c'est que dans la diaspora africaine, les animaux étaient considérés comme très souvent comme des enseignants. Et à cette image, ce livre est incroyable de leçons de tout ce que peut nous apporter la vie marine animale, mais le vivant en règle générale, donc plus
De
écouter.
redonner le titre.
C'est Undrowned, donc je l'écrirai, c'est UNDROWNED, et c'est de Alexis Pauline. Et voilà, c'est une Américaine afro-descendante qui a fait un travail incroyable d'éthologie sur les mammifères marins et sur ces leçons qu'on peut tirer sur la société. C'est très poétique et aussi très ancré dans la réalité.
Merci Charlotte pour ça. Merci
De rien.
Camille. Clap de fin.